Carnet de région.
Gard,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croustillon.
Bonjour, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Carnet de région, le magazine d'actualité proposé par des radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon. Ce mois-ci, c'est Radio Lodev qui en assure la rédaction en chef. Au sommaire cette semaine, le bilan de la sécurité dans le département de l'Hérault pour l'année 2012 avec le patron des gendarmes du département, Éric Stégère. À quelques jours de l'ouverture des débats à l'Assemblée nationale sur le mariage pour tous, on s'organise du côté des opposants, du côté des partisans. Également, on fera le point en Languedoc-Roussillon. La Fédération des calendrettes du Languedoc organisait une porte ouverte samedi dernier, l'occasion de voir comment fonctionnent ces écoles associatives français-occitans. Le collectif des semeurs du Lot-des-Voies-Larzac organise, lui, une bourse d'échange de graines et de plants. Ce dimanche, ça se passera à Lodève, dans le département de l'Hérault. Non loin de là, sur les rives du lac du Salagou, un cactus a élu domicile, un cactus qui n'est pas le bienvenu. Le petit poussé de la Coupe de France de football est éliminé. Le club de Mende a perdu mardi contre le Havre, un club de Ligue 2, 3 buts à 0. Et puis on terminera ce carnet de région par du sport toujours avec un interview du directeur de l'étoile de Bessèges, la première course cycliste internationale de l'année. Mardi dernier, la préfecture de l'Hérault invitait les journalistes pour leur soumettre le bilan de la sécurité pour l'exercice 2012. Le préfet de région et de l'Hérault, Pierre de Bousquet, était présent, aux côtés du colonel Éric Stégère, le chef de la gendarmerie de l'Hérault, avec qui Liliane Drey a pu faire le point sur ce bilan et évoquer certaines mesures qui seront mises en place cette année.
Colonel Stégère, bonjour. Vous dirigez le groupement de gendarmerie de l'Hérault. Vous venez de parler d'une baisse des violences faites aux personnes et faites aux biens. Quelle analyse vous tirez de cette baisse?
L'analyse, c'est donc tout d'abord le très fort recul que nous avons obtenu sur les atteintes aux biens. Les atteintes aux biens qui représentent les deux tiers de la délinquance constatée en zone gendarmerie, c'est-à-dire 600 000 habitants dans le département de l'Hérault, avec un recul notamment sur les cambriolages et les vols liés à la véhicule. Ce recul, il est d'abord lié à un travail en profondeur sur le terrain, en ciblant les communes les plus en difficulté, en renforçant notre présence, en systématisant le recours à la police technique et scientifique, mais c'est également le premier fruit d'un lien renforcé avec la population qui nous permet d'être mieux alertés des fragilités de telle ou telle commune, de telle ou telle zone, de réagir à la fois par des patrouilles préventives, mais également d'être très rapidement présents lorsque des faits nous sont signalés.
C'est ce que vous appelez la participation citoyenne?
C'est le dispositif de la participation citoyenne, mais pas seulement. La participation citoyenne, il s'agit donc de 16 communes qui ont accepté de s'engager avec l'État pour effectivement favoriser, sur la base du volontariat, le signalement de faits dans des quartiers avec des bénévoles qui sont des particuliers, je dirais un peu plus avertis et qui sont plus sensibles à ce qui est un fait anormal, voire suspect, et qui n'hésiteront pas à ce moment-là à pouvoir effectivement nous prévenir de manière à ce que nous fassions les vérifications nécessaires. Ce qui est important dans cette démarche, c'est que nous sommes bien sur un lien entre la population et les forces de l'ordre. Et c'est là tout l'enjeu. L'esprit, c'est que les gens, non seulement aient bien confiance en nous, mais n'hésitent pas à nous alerter. Et c'est bien comme cela que nous pouvons le mieux réagir, le plus efficacement, à leurs besoins de sécurité.
Et vous avez parlé de la baisse de ces atteintes aux biens, vous avez souligné également ces violences gratuites et ces violences faites aux femmes.
Nous avons malheureusement effectivement un renforcement de ces violences gratuites, phénomène dont je rappelle qu'il reste encore mal connu. Il reste une différence entre les faits tels qu'ils nous sont signalés et malheureusement la délinquance réelle. Et nous avons conscience que la délinquance réelle, en certains cas, est bien supérieure aux faits qui nous sont signalés. Dans certains cas, c'est un rapport d'un à 10. Cette libération de la parole qui est nécessaire, c'est de faire en sorte que les victimes, à commencer par les femmes bien évidemment, n'hésitent pas à venir signaler les faits. C'est ce qui permet une réponse de l'État, une réponse en fait globale, réponse des collectivités locales, réponse des services sociaux avec des lieux d'hébergement pour les femmes battues et une réponse bien évidemment pénale. Donc nous nous inscrivons pleinement dans ce dispositif qui ne cesse de monter en puissance et qui permet d'apporter une réponse adaptée à un phénomène de société malheureusement extrêmement préoccupant et dont on ne cesse de mieux comprendre l'ampleur réelle.
que signifie cette expression que vous avez utilisée tout à l'heure, la saisie des avoirs criminels ?
La saisie des avoirs criminels correspond à un dispositif légal qui a été adopté il y a quelques années par le Parlement et qui permet désormais, dans la plupart des enquêtes, de pouvoir procéder à la saisie des biens qui ont été acquis par les délinquants avec l'argent de leur crime ou de leur délit. C'est légal et c'est aujourd'hui une faculté qui nous permet de frapper les délinquants au portefeuille. En pratique, en 2012, cela s'est traduit par la saisie d'1 million d'euros d'avoirs criminels dans le département de l'Hérault. Cela s'est traduit par la saisie d'argent liquide, de biens immobiliers, de terrains, de voitures. Et concrètement, cet argent ensuite est géré par une agence de l'État qui dépend du ministère de la Justice. Agence qui, à l'issue du procès pénal, si les délinquants ont été définitivement condamnés, confisque cet argent qui ensuite sert au budget de l'État afin d'améliorer encore l'aide des victimes et l'action des forces de sécurité.
Liliane Audrey qui faisait le point sur la sécurité dans le département de l'Hérault avec le patron des gendarmes, le colonel Éric Stégère. Quelques jours avant l'ouverture des débats à l'Assemblée nationale au sujet du mariage pour tous, les partisans de ce projet de loi qui autoriserait à deux êtres de même sexe de se marier s'organisent avec des rassemblements à Paris, mais également en région. Anne Sirota de Radio Pays des Rois a rencontré Elodie Brun de Lesbian and Gay Pride Montpellier, Languedoc-Roussillon.
On va commencer samedi à 15h à Montpellier, au Jardin du Pérou, avec une arrivée à la place de la Comédie. C'est une manifestation contre l'homophobie et pour l'égalité des droits. Parce que contre l'homophobie, parce que nos opposants ressortent leur petite musique lancinante d'homophobie latente. Donc on tenait à mettre que c'était aussi contre l'homophobie. Donc première date, 26 janvier, 15h, Jardin du Pérou, Montpellier. Deuxième date, dimanche, 14h, à Paris, d'Enfer Rochereau, pour la manif, pour l'égalité des droits. Et lundi, nous revenons à Montpellier à 18h30, place des Martyrs de la Résistance, devant la préfecture, puisque là, c'est un rassemblement symbolique pour la veille du dépôt de loi à l'Assemblée nationale.
Donc là, on a entendu, on revient à Montpellier. Ça veut dire qu'il y a qu'on voyage prévu pour Paris au départ de Montpellier ?
Complètement, on a mis en place avec l'interassociative un TGV qui part le matin, le dimanche matin, qui revient le dimanche soir pour assister à la manifestation de Paris. Et donc, nous serons une délégation de 105 personnes. Après, on a plusieurs retours et on pense que la délégation sera 300 à peu près à Paris.
Cette manifestation de samedi à Montpellier, c'est un événement qui a été rajouté plus récemment.
Alors effectivement, nous avons ajouté la date du samedi qui n'était pas prévue à l'origine, suite à de nombreuses interpellations de la part de nos amis lausériens ou gardois qui n'ont pas la possibilité, parce qu'ils travaillent à plus d'une heure de Montpellier, de se déplacer lundi soir pour manifester pour leurs droits. On a appelé ce jour-là, après, parce qu'on a eu énormément de sollicitations quand même, on en a eu plus d'une dizaine. Pour nous, c'est énorme. Donc on a appelé l'interassociative et on a vite rajouté une date parce qu'il me semblait important que chaque personne puisse se mobiliser pour clamer haut et fort l'égalité de droits.
Le projet de loi sur le mariage pour tous, qui suscite beaucoup d'émotions tant chez les opposants que chez les partisans, sera débattu en séance à l'Assemblée nationale à partir du mardi 29 janvier. Dans l'actualité, le collectif des semeurs du Lot-des-Voies-Larzac organise, comme l'an dernier, une bourse d'échange de graines et de plants à l'Audève. Ça va se passer dimanche de 10 à 18 heures dans et tout autour de la halle d'Ardé. Fanny Corbin fait partie de ce collectif. On parle justement de cette démarche.
Ça fait environ 3 ans que le collectif des semeurs du Lot-des-Voies-Larzac existe. On est un groupe qui défend l'échange de graines et de semences anciennes et la préservation de ces semences, donc par des journées d'action conviviales, sympathiques et en espérant réunir un large public.
En sachant effectivement que ces graines, ces plants, ils sont menacés parce qu'il y a des lois qui font que peut-être il sera plus possible d'en disposer comme on le souhaite.
Voilà, donc c'est une démarche militante évidemment, car en ce moment on essaye de mettre les plantes en catalogue et de ne vendre que certaines variétés, donc d'autres sont menacées d'extinction, dont des variétés locales, et nous, notre petit groupe à notre échelle, avec d'autres partenaires comme le réseau des semences paysannes ou Graines del País qui sont des semenciers, on essaye justement de conserver ces graines et de les transmettre à d'autres jardiniers, pour tout simplement qu'elle continue à vivre et à faire partie de notre patrimoine. Alors c'est vraiment ouvert à tous, justement la bourse d'échange de graines et de plants, c'est l'occasion avec des gens qui sont jardiniers chez eux ou des professionnels aussi de venir, de trouver des graines un peu communes, de venir échanger eux-mêmes ce qu'ils ont fait chez eux sur leur balcon, dans leur châssis. Voilà, chacun repart avec des graines. Il y a des variétés comme la moustette salasque, qui est une salade du coin qui a été préservée grâce à ce type de mouvement. Et on est sur d'autres variétés, des oignons, des choses comme ça. Les gens repartent avec une variété qui était presque morte. Et bien, les gens repartent avec et il y en a finalement après dans plein de jardins. Et ça redevient une plante cultivée localement. Voilà, c'est un peu notre réussite à nous.
Que vous organisez, on le disait, sur deux tentes désormais, à l'Odève et puis à Celles.
Donc on avait commencé par Celles. C'est au printemps, qui est un moment justement où il y a beaucoup de plants. Là, c'est plus facile pour les gens d'échanger des plants. Et après, on s'était dit qu'il manquait un peu d'une dynamique en hiver. Donc on a créé cette journée à la Halle d'Ardée en hiver. Et c'est l'occasion aussi de voir des films, d'assister à des conférences très intéressantes. Là, on en a deux. Donc avec Isabelle Bourrier qui est technicienne en biologie végétale et qui va nous parler de pollinisation et un monsieur qui s'appelle Jean-Luc Brault qui est le cofondateur de Graines del País, une petite société qui vend des graines, qui produit des graines et qui les vend et qui va faire une conférence sur produire sa semence. Il y a des temps d'atelier, de découverte de graines, il y a des temps pour les enfants, il y aura du battage de graines, il y a une projection de films sur les semences. Et le soir, un moment plus festif de musique occitane avec un peu de danse. Voilà, donc ça reste une journée sympathique, vraiment basée sur l'échange de nos connaissances et de notre envie aussi de conserver ces graines. On aura aussi une crieuse publique qui sera là pour animer la journée et récolter la parole de chacun à propos de son vécu sur les semences.
Fanny Corbin pour le collectif des semeurs du Lodévois-Larzac qui organise donc ce dimanche 27 janvier de 10 à 18h à l'Odève, dans et tout autour de la Halle d'Ardée, cette bourse d'échange de graines et de plants.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
La Fédération des calendrettes du Languedoc compte actuellement 23 écoles et un collège pour un total de 1782 élèves. Elle organisait samedi dernier une porte ouverte dans chaque école française occitane de la région. L'occasion de faire le point sur la calendrette Terre-Mère installée dans la petite commune de Salelles-du-Bosc dans le Lodévois. Une petite école associative que l'on présente avec le président Aurélien Barnoin.
Une petite école avec 29 enfants, deux enseignantes et deux ATSEM. Et depuis le mois de janvier, nous venons de récupérer l'ensemble des locaux. Jusqu'à présent, on occupait le bas. Et donc, on a la possibilité de s'agrandir l'année prochaine et de voir un effectif plus grand. Alors, pour le moment, ça va de la très petite section jusqu'au CE2. Voilà, alors c'est une immersion totale jusqu'au CE1, où on parle et on écrit en occitan jusqu'au CE1. Et à partir du CE1, on rentre la langue française à équivalence de 60% de français, 40% d'occitan. C'est une structure associative qui est gérée donc par l'ensemble des parents d'élèves, puis donc par un bureau qui s'est réuni, et des CA une fois par mois. Une partie est aidée par la Fédération Occitane pour tout ce qui est corps enseignant. Et après, c'est les parents qui font des actions d'autofinancement pour tout ce qui est paiement des loyers, de EDF, et puis voilà, pour tout ce qui est charge d'ATSEM.
Alors pourquoi des parents choisissent de mettre leurs enfants dans des calendrettes? Quelles sont leurs spécificités? Réponse d'Anne Débatte, c'est l'une des deux enseignantes de Terre-Mère à Salelles-du-Bosc. C'est aussi la directrice.
Alors, il y a trois spécificités. L'immersion dans la langue occitane. À partir du moment où l'enfant entre en classe chez nous, eh bien, il entend parler occitan et puis il va progressivement être amené à parler occitan, à faire l'apprentissage de la lecture en occitan avant de faire l'apprentissage de la lecture en français, puisque la finalité, c'est de faire un enfant bilingue. L'autre dimension, c'est la dimension associative. Donc, on est des écoles associatives Sous contrat, alors sous contrat, ça dépend de l'ancienneté. Nous, comme on est nouveau encore, on n'est que dans notre quatrième année, bon, il faut qu'on attende 5 ans avant d'être sous contrat avec l'État, mais on respecte les programmes officiels. Et puis, alors, la dimension associative, ça veut dire que ce sont les parents qui sont en association pour déjà nous permettre de vivre, c'est-à-dire il faut qu'ils financent certains postes, par exemple les aides maternelles, et bien ce sont les parents qui créent des manifestations, qui bon, voilà, se débrouillent pour apporter de l'argent à l'école. Et puis, c'est aussi au niveau de l'organisation et des projets que, voilà, on travaille ensemble, et notamment cette année on fait un projet sur le Land Art. Et la troisième dimension, c'est la pédagogie. Alors la pédagogie, ce sont les techniques freinées et la pédagogie institutionnelle. Les enseignants de Calandrette sont formés, ils ont un centre de formation, c'est à Béziers, donc on est formé 1 an à cette pédagogie, en plus de la formation par rapport à la langue occitane, bien sûr.
Anne Débatte, la directrice de la Calandrette Terre-Mère, installée à Salé-Lubosc, dans le Lot-des-Voies. Dans l'Hérault, sur les rives du lac du Salagou, un cactus a élu domicile, un cactus qui n'est pas le bienvenu vu sa dangerosité. L'Opuntia rosea, c'est son nom, est originaire du Mexique. Il peut atteindre 2 mètres de hauteur et s'étaler sur 3 mètres. La plante possède des épines redoutables, longues comme des aiguilles de couture. Lydie Pigé, élu du petit village de Selles, menait la semaine dernière une campagne d'arrachage de ce cactus. Un reportage d'Adrien Delgrange de Radio Pays d'Hérault.
Écoutez le bruit, c'est beau. Hein. Et voilà, garde la racine. T'as vu la racine ? Okay. Voilà. Donc il faut pas y aller, faut y aller avec des pinces, faut pas mettre les doigts. Hein. Là, je le prends par la racine et après je le mets dans le seau. Je vais tasser. Ce sont des cactus qui ont été plantés à peu près maintenant peut-être une 20aine d'années. Et puis on a fait une collecte il y a 4 ans. Et chaque année on fait des collectes, on fait un ramassage de cactus parce qu'ils envahissent toute la ruf là, tout derrière le village. C'est dangereux pour les animaux, pour les enfants, pour tout le monde quoi. Puis pour la faune et la flore. Et c'est un cactus qui peut vivre 7 ans sans eau, sans être planté. Vous le mettez dans une petite boîte et vous attendez et vous pouvez le replanter. Par qui au bout de 7 ans. J'ai pas essayé. Hein.
Il a été planté par qui à 20 ans ?
Moi, je sais pas. Pour moi, c'est encore quelqu'un qui a dû avoir son cactus, qui a dû déménager. Je me suis fait ce film-là, quoi. Et puis, qui a voulu que son cactus y vive. Et bien, il vit très bien, quoi. Mais seulement, il a envahi la faune et la flore, comme les tortues dans le lac, comme la plante là qui est en train d'envahir aussi le lac. Enfin, voilà, ce sont des gens. Enfin, c'est un manque de conscience. Je pense que quand on vend des plantes ou on va acheter des plantes exotiques, il est intéressant de savoir si on peut les replanter quelque part ailleurs. Enfin, c'est pas adapté pour ici, donc le problème, il est là. C'est que beaucoup de gens jettent leur aquarium dans les rivières ou dans le lac, donc on est envahi par des plantes invasives. Mais ça, c'est une conscience. Et puis, je pense que c'est les vendeurs qui devraient dire, bon, ramenez-moi les animaux. Si vous en avez marre de votre petite tortue, vous me la ramenez, quoi. Mais il ne faut pas l'acheter n'importe où dans la nature, quoi.
Une fois ramassé, ce cactus est enfoui dans la terre à 2 mètres de profondeur. Au printemps, une autre campagne d'arrachage sera organisée en partenariat avec le syndicat mixte de gestion du lac du Salagou. Ça devait arriver un jour. L'Avenir Footloser, le club de football de Mende, est éliminé de la Coupe de France après sa défaite mardi soir en 16e de finale contre le Havre, 3-0. Et si le score est lourd, il ne reflète pas totalement la physionomie du match. Si le club de Ligue 2 mérite sa victoire après avoir buté 2 fois sur les montants de l'AFL à la 80e minute, le score était toujours de 0-0. On écoute le défenseur mendois Pierre Tessier qui y croyait.
Je fais l'interview à la 60e, je vous dis, le match on le gagne, c'est sûr. Mais bon, après c'est le foot, ça tourne très très vite. Et voilà, ils ont frappé 2 fois les poteaux. Le premier but qu'ils mettent, ça frappe l'intérieur du poteau avant de rentrer. Voilà, c'est. On n'a pas eu la réussite qu'on a eue auparavant. Voilà, c'est tellement magnifique ce qu'on a vécu entre nous. Et putain, de savoir que ça s'arrête, Voilà, j'ai tellement envie de continuer ça ou de le revivre encore une fois que ouais, je suis ému, ouais, vraiment ému. Ouais.
Alors même si la déception est là, le capitaine Fadil Gourma reste fier de l'épopée accomplie par son club qui évolue, on le rappelle, en division d'honneur régionale.
Ah là, ça retombe d'un coup. Là, ça retombe d'un coup, mais malgré ça, voilà, on est tous fiers d'avoir fait ce parcours, d'avoir amené autant de monde au chapitre, quoi, au Stade Delmas. Et voilà, c'est ce qu'on va retenir de tout ça. Dans quelques années, on s'en rappellera encore qu'on a fait ça tous ensemble. Et voilà, c'est bien.
Quant à Eric Mombertz, le coach havrais, lui tient à tirer son chapeau à l'équipe lozérienne.
Mes premières paroles viennent à féliciter d'abord les deux équipes. D'abord Mende pour son parcours exceptionnel. Voilà, donc, et puis d'avoir fait le match qu'ils ont fait aujourd'hui. Voilà, donc, il fallait vraiment se méfier de cette équipe. Et c'est vrai qu'on n'a pas permis au public d'enflammer non plus le match, parce que si jamais on s'était retrouvé dans une configuration à être mené ou avec des occasions, je pense que ça aurait chauffé à blanc le public. Il fallait surtout pas tomber dans cette configuration-là. On a su le faire, donc c'est très bien.
À noter que l'Avenir Foot Lozère reste invaincu dans son championnat de division d'honneur régionale, l'objectif restant la montée en division d'honneur. C'était un sujet de Ludovic Terol de 48 FM. On termine ce carnet de région avec du cyclisme à quelques jours du coup d'envoi de la 43e édition de l'Étoile de Bessèges dans le Gard. C'est la course qui ouvre le calendrier international. Roland Fangil est directeur de course. Il est au micro de Radio 16.
Il est un événement incontournable dans la région de Bessèges qui approche à très grands pas. C'est la 43e étoile de Bessèges, la première course internationale cycliste de l'année. Bonjour Monsieur Fangil.
Oui, bonjour.
Vous êtes le fondateur un petit peu de cette course.
Eh oui, puisque j'étais à la première en 1971, c'est l'Union cycliste bességeoise. J'avais eu l'occasion d'aller courir sur la Côte d'Azur avec les coureurs professionnels. Et l'idée est venue de dire pourquoi pas une course à Bessèges. Et maintenant, on est à la 43e édition, donc ça fait des années. Au début, les coureurs venaient un peu dans une période d'entraînement, alors que maintenant, le garçon qui va faire dans les 10 premiers sur l'Étoile de Bessèges va le garder en référence et l'inscrire dans son palmarès.
Allons voir l'Étoile de Bessèges en version 43e édition. Monsieur Fangil, donc, je rappelle, vous êtes le fondateur, vous en êtes aujourd'hui le directeur de course de cette Étoile de Bessèges. Encore une fois, elle a beaucoup changé. Il fut un temps où tout se passait un petit peu autour de Bessèges. Aujourd'hui, elle voyage un peu plus, cette course. Et quel est le parcours prévu cette année?
Il y a des années que l'épreuve s'était expatriée, surtout sur les Bouches-du-Rhône. Et maintenant, depuis 3-4 ans, avec le Conseil Général du Gard, qui est notre partenaire, on a réussi à maintenir l'épreuve sur le département. Et les 5 journées de course se déroulent en totalité sur le département. C'est un spectacle que l'on vend pour faire en sorte que l'étoile reste sur le département. Alors le programme de cette année, pour cette 43e édition, on va dire qu'on se retrouvera à peu près sur le même profil que l'année dernière, puisque l'année dernière, la première journée, le mercredi, qui se trouvait dans le territoire de la Terre d'Argens, c'est-à-dire Beaucaire, Bellegarde, et cette année, ce sera à l'inverse de l'an passé. Le jeudi 31, la deuxième étape, Nîmes-Saint-Amrois, et on va retrouver les Fumades qui vont nous accueillir cette année pour cette deuxième étape. Le vendredi 1er février, ce sera le Grand Prix de Bessèges, avec, comme l'an dernier, le départ de Bessèges, l'arrivée à Bessèges sur l'avenue Péric, et bien sûr le col de Trélis à effectuer 3 fois, les brousses, le Riboulet, le Châtaignier. Voilà un profil pour un grimpeur, puisqu'on a vu que le vainqueur de l'an dernier, Pierre Roland, est un garçon qui arrive à gagner des étapes sur le Tour de France et des étapes de montagne, bien sûr. Le samedi, ce sera la 4e étape, le Grand Prix du Gard Rodanien, qui partira de Sabran, c'est-à-dire aux portes de Bagnols-sur-Cèze, pour rejoindre Pont-Saint-Esprit. Et le dimanche, le Grand Prix d'Alès en Cévennes, qui partira d'Alès, place de la mairie, pour arriver à Quai Boissier Sauvage, après un parcours de 69 km. Et alors l'après-midi, le contre-la-montre individuel, Alès-Alès, qui fait 9 km 700, et qui nous fait arriver à la cime de l'Ermitage. Un parcours où les coureurs viennent maintenant pour inscrire leur nom au palmarès. On s'accroche tous les ans pour maintenir une course. Contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est pas la première épreuve de la saison, c'est la première épreuve du calendrier Europe Tour. Et cette année, on a une semaine d'avance par rapport à ce qui est prévu, tout simplement parce que le Tour de France, lui, partira une semaine avant. Tout le calendrier du début de saison a été avancé par rapport au Tour de France.
Les équipes maintenant qu'on va pouvoir applaudir tout au long du parcours de cette étoile de Bessèges.
Cette année, ça va être un peu une réussite. Ce sera quand même 19 équipes qui seront présentes sur la ligne de départ. Les équipes Pro Tour, qui sont les grosses cylindrées, si on peut dire, sur le cyclisme, avec la Française des Jeux, avec AG2R la mondiale, l'équipe Vacances Soleil, l'équipe Lotto Bellisol, l'équipe Euskaltel Euskadiek et le Team Argos, nouvelle venue dans le calendrier Pro Tour. Après, on retrouve 9 équipes Pro Continental, Cofidis, Team Europe Car, Sojasun, Bretagne Sèche Environnement, Crélan Euphonie équipe belge, Accent Jacob Vanti équipe belge, Top Sport Vlaanderen équipe belge, une équipe américaine Unitel Star Pro Cyclisme et une équipe russe Rus Vélo. Et on va trouver les 4 équipes qui sont des équipes continentales. Bien sûr, les équipes françaises à qui on donne priorité dans l'épreuve. Big Mat Aubert 93, Roubaix Lille Métropole, La Pomme Marseille et Anne Post, qui sont les 19 équipes qui sont présentes sur l'épreuve. Mais on a dû avoir une trentaine de candidatures. Alors nous, on arrive à privilégier d'abord les équipes françaises. Et puis après, les équipes qu'on retrouve chez nous, ce sont des équipes qui ont toujours été sympathiques avec nous, qui sont toujours venues avec plaisir sur l'épreuve. Bon, les équipes ont toute envie et surtout besoin de faire le début de saison. On a retrouvé 21 nationalités, ce qui montre que l'étoile de Bessèges est devenue vraiment internationale.
On peut retrouver toutes les informations sur cette course.
Oui, on a notre petit site, étoile de Bessèges. Avec le fait d'avoir 21 nationalités, eh bien, tous les pays qui sont autour de ça se rapprocheront et viendraient chercher des informations pour parler de l'étoile de Bessèges en dehors de nos frontières du département.
Merci beaucoup Monsieur Fangil d'être venu nous présenter donc cette 43e édition de l'étoile de Bessèges.
C'était un entretien réalisé par nos confrères de Radio 16.
Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.
Voilà qui clôture ce carnet de région. Merci d'avoir passé ce moment avec nous une nouvelle fois pour ce magazine d'actualité que vous propose des radios associatives non commerciales du Languedoc Roussillon. Ce mois-ci, c'est Radio Lodev qui assure la rédaction de ce magazine. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Rendez-vous dès la semaine prochaine, même jour, même heure. À très bientôt. Au revoir.